16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1 tous les jours, un grand voyage avec toute la bande, Nathalie Hélal, auteur, grande voyageuse, avec Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet.
On est avec vous, Philippe.
Avec Olivier Pouls.
Valise prête.
Toujours, vous ne la défaites jamais, c'est comme un placard chez vous en fait.
Tout l'été, elle sera prête.
Et en direct du Costa Rica, un Français, un bienheureux. Paris parti s'installer là-bas en 1984. Vous y avez été enseignant pendant très longtemps, puis guide. Et vu que vous êtes resté là-bas depuis tout ce temps, c'est que ça doit sacrément vous plaire. Jean-Christophe Bourg, bonjour.
Bonjour, bonjour Philippe.
Vous êtes au Costa Rica en direct avec nous. Il est quelle heure là-bas ?
Bah écoutez, il est 9h, 9h du matin.
Ah oui, donc c'est
il y a 8h de décalage, je crois.
On vous a privé de grasse matinée, donc.
Non, je vous entends un peu mal. Hein.
On va régler ça va venir tout doucement, vous inquiétez pas. C'est à la costaricienne, on y va tranquillement. Vous êtes où exactement ?
Bah écoutez, je me trouve à l'entrée du parc national Chirripó, qui est au pied de la plus haute montagne du Costa Rica, en fait, d'Amérique centrale jusqu'au Guatemala.
Et qu'est-ce que vous voyez ?
Bah écoutez, je vois la forêt qui pousse parce que j'ai acheté cette terre il y a 30 ans. C'était une friche et j'ai laissé la nature reprendre ses droits. Je suis situé entre deux rivières et donc eh bien les arbres, enfin la nature est revenue d'elle-même.
Alors quand on dit la nature qui pousse au Costa Rica, faut faire attention, c'est très luxuriant là-bas. Quand ça pousse, c'est vite énorme, c'est vite envahissant. On est toujours à deux doigts de la jungle.
Absolument. Bah écoutez, on peut penser à 20 ans pour avoir une forêt à peu près, ouais. À peu près correcte.
C'est pas beaucoup.
Ouais. Alors, c'est pas beaucoup.
Il y a quelque chose que je trouve très attachant dans ce pays, ce sont les gens. Et il y a une expression qui est assez révélatrice de ce qu'ils sont. C'est que là-bas, pour se dire bonjour ou au revoir ou comment ça va, on se dit pura vida, ce qui veut dire pure vie. C'est pas un truc qu'on dirait chez nous. C'est très marrant. C'est quoi la signification exacte ?
Écoutez, ça vient d'un film mexicain qui a été projeté en 1956 au Costa Rica, où l'acteur principal répète cette phrase trois fois dans le film. Et donc, c'est exponentiel, les gens commençaient à l'adopter, et maintenant c'est devenu vraiment le label du Costa Rica. Vous savez qui a prononcé cette phrase ? C'est Zidane, pour la troisième coupe mondiale du football. Pour rendre hommage à son gardien de but qui s'appelait Keylor Navas, enfin qui a changé d'équipe maintenant, mais pour le Real de Madrid, il a prononcé cette phrase aussi. Voilà, mais c'est devenu vraiment l'emblème, enfin le refrain un peu que tout le monde dit ici pour dire bonjour, merci, ça va. Enfin, c'est très 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 positif.
Et c'est en lien avec la nature, pure vie. On dit pure vie. Pour dire bonjour, c'est étonnant.
Non, pas
ça.
Exactement. Non, pas vraiment.
C'est un peu le carpe diem.
Ça peut être. Comment ?
C'est un peu le carpe diem local.
Oui, tout à fait. Oui, c'est comme un label. Ça représente le pays à l'extérieur.
Alors, d'ailleurs, c'est utilisé. Ce qui est très très étonnant au Costa Rica, c'est que c'est un pays pacifique qui n'a plus d'armée depuis 1949.
Oui, en fait. José Figueres Ferrer, qui est devenu le président de la République par la suite, a donné un coup de masse sur le cartel, c'est-à-dire sur la caserne à l'époque. Et dans ce geste, il a donc aboli complètement l'armée. Donc depuis ce temps-là, il n'y a plus d'armée. Et donc tout ce qui est budget qui était consacré à l'armée a été dirigé sur l'éducation principalement. Et puis sur les moyens de télécommunication, l'électricité, tout ça. C'est un progrès pour le pays dans un moment où la guerre faisait rage autour. Hein. Vous vous rappelez les épisodes du Nicaragua, par exemple, tout ça. C'était une époque très, très compliquée. Et lui, c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement habile au niveau politique qui a su négocier le moment et donc il abolit l'armée. C'était très contesté à l'époque.
Ça paraît incroyable tout ça parce que pas d'armée, une nature incroyable, une relation à la nature très particulière. On dirait que c'est une sorte de petit paradis. Comment ça se passe la relation avec la nature dans ce pays ? Comment les gens voient la nature ? De quel œil ?
Bien, écoutez, les gens étaient assez destructeurs de la nature jusque à la fin des années 80. Hein. Le pic de destruction des bois, ça s'est fait en 87. À partir de 90, autour des parcs se sont établies des zones tampons. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens, de fondations, qui sont venus acheter de grandes extensions de terre et ont laissé repousser la forêt. Comme la forêt a repoussé, eh bien c'est passé, enfin, à ce moment-là, en 87, je crois que c'était 25% simplement du territoire qui était boisé, et maintenant on en est presque à 45%. C'est-à-dire que la relation des gens avec la nature, ils sont sensibilisés à la nature. Ouais. Les gens, enfin, il y a des amendes pour les gens qui jettent une bouteille, qui jettent des cochonneries. Enfin, il y a quand même quelque chose. Les gens ont une mentalité maintenant qui est très, très, très écologiste.
Ouais, c'est vrai. Et moi, ce qui me fascine, c'est aussi les plages, parce qu'il est très difficile d'avoir l'autorisation de construire à moins de 200 mètres de la mer, ce qui donne des plages incroyables, immaculées sur des centaines et des centaines de mètres. C'est vraiment un très beau pays. Jean-Christophe Bourg, vous restez avec nous. Vous êtes en direct du Costa Rica. Et ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que c'est sans doute un des endroits où l'on vit le plus vieux au monde. Et ça, c'est étonnant. On en parle dans un instant sur Europe 1.
Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait sur Europe 1 chaque fin d'après-midi entre 16h et 18h, un grand voyage. Aujourd'hui, le Costa Rica. Installez-vous, respirez et partez. Et sur cette planète, il y a ce qu'on appelle les zones bleues. Et ça, c'est super intéressant. Les zones bleues, ce sont les endroits du monde où, officiellement, on vit plus longtemps qu'ailleurs. Et il y en a une au Costa Rica qui s'appelle la péninsule de Nicoya. Eh bien, tenez-vous bien, là-bas, les habitants ont 10 fois plus de chances de devenir centenaires qu'en Europe ou en Amérique du Nord. Et j'y ai fait une rencontre très touchante. Ça se passe en pleine campagne, il fait chaud, le soleil tape, l'herbe est rousse, brûlante, desséchée par le vent. Et sur un chemin caillouteux, je croise un monsieur à cheval qui avance très lentement. Alors je vais vers lui et je lui demande « Mais vous allez où comme ça ?» Et il me répond « Ben, à l'anniversaire d'une copine. » Et pourquoi vous y allez à cheval ?« Eh ben, parce que je peux plus conduire et puis je suis habitué à monter à cheval. Ça fait plus de 20 ans qu'il m'emmène. » Et là, je sens qu'il faut que je lui demande son âge, et il me répond 104 ans. Et là, je vous avoue que c'est quand même un choc, parce qu'un homme de 104 ans sur son cheval, c'est pas tous les jours. Et il y a une deuxième surprise. Sa copine, celle à qui il va souhaiter bon anniversaire, elle va avoir 100 ans. Donc j'ai en face de moi un homme à cheval de 104 ans qui va fêter l'anniversaire d'une copine qui a 100 ans, ça c'est quand même pas mal. Et je dis à Don Pazito, c'est son nom, je lui dis que je trouve ça incroyable, mais lui, il ne comprend pas. Il me répond, qu'est-ce que tu trouves incroyable? Tu vas pas à l'anniversaire de tes copines, toi? Donc voilà, donc gros éclat de rire, et puis il m'invite à l'anniversaire. Arrivé à la maison de son ami, il me demande un coup de main pour descendre de son cheval. Et là, je comprends, parce que j'avais vu un Don Pazito plutôt à l'aise sur sa monture, mais tout à coup, je me rends compte que je vais quasiment devoir le porter. J'ai dans mes bras un petit corps tout frêle, tout léger, tremblant à l'idée de devoir tout à coup se poser sur ses jambes. Et j'ai même peur de lui faire mal. Donc je le pose délicatement sur le sol. Et là, il a bien du mal à marcher. Et il va m'avouer que son cheval remplace ses jambes, en fait. Dans la maison, c'est ambiance tranquille, musique, petit orchestre, une vingtaine de convives, et surtout, il y a la copine de Don Pazito qui s'appelle Dora. Alors Dora, elle est plutôt petite, avec des yeux rieurs, elle semble toute minuscule devant un gros gâteau rose, orné du chiffre 100 et de quelques bougies. Dora et Don Pazito se font la bise, ça papote autour des jouets et des peines d'être centenaire, donc ça parle douleur, de la vue qui est un peu faible, mais que le moral est bon, et puis il y a Don Pazito qui précise qu'il en reprendrait bien pour 20 ans, pour profiter un peu plus de la vie. Donc l'ambiance est plutôt bonne. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'autour de la table, il y a quand même 4 centenaires et leur famille. Donc j'interroge un peu tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on vit aussi vieux dans la région? Alors les réponses fusent. Il y a quand même des grands principes. Il y a un, la bonne nourriture. Ici, on mange local et souvent du jardin avec beaucoup de haricots noirs, de courges, de maïs, de patates douces et de fruits. Il y a le lien et ça tout le monde en parle, de l'avis général, il y a une grande sociabilité. Les familles sont très unies et vivent ensemble, toutes générations confondues. Les aînés ne sont jamais seuls. Et puis, troisième point qui revient, c'est que les personnes âgées gardent en général une activité, un travail à leur rythme, mais très longtemps, en étant toujours intégrées. Alors, je n'avais pas trop remarqué, mais pendant que je bavardais avec les convives, Don Pazzito était tout simplement en train de draguer Dora. De draguer à l'ancienne, et il y a une phrase très mignonne que j'ai captée, et je vais finir là-dessus. Il lui a dit « Hier soir, j'ai rêvé de toi, j'ai vu deux lunes qui me regardaient. Eh bien, je crois que c'était tes jolis yeux qui me regardaient. » Et il l'embrasse sur la joue.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures d'évasion avec Philippe Googler.
Ah, ils étaient adorables. Adorables les deux. Et voilà, nous sommes donc au Costa Rica, dans un pays, un des pays où l'on vit le plus vieux au monde. Et toujours en direct avec nous, Jean-Christophe Bourg, qui est français à l'origine, qui vit là-bas depuis 1984, ça fait une paye.
Qui a 104 ans, lui aussi.
Vous avez quel âge maintenant?
Bah écoutez, j'aurai cette année 65 ans.
Et vous misez sur... Vous visez combien?
Bah 104 ans.
Oui, bah c'est la moyenne là-bas, c'est même pas très ambitieux. Alors, le Costa Rica, c'est un pays très, très religieux, on y est catholique, et la patronne du pays, c'est Notre-Dame des Anges, la Vierge qui trône dans la basilique de Cartago, l'ancienne capitale du Costa Rica.
Oui, vous l'avez vu?
Oui, je l'ai vu là-bas. Et c'est bien là-bas qu'on vient prier à genoux, hein, depuis de longues distances.
C'est-à-dire qu'il y a un pèlerinage tous les ans, le 2 août. Hein, ça finit le 2 août à la basilique et les gens arrivent à l'église et donc vont de la travée, enfin parcourent la travée à genoux jusqu'à l'hôtel. Oui.
Et comment ils ont fait pendant le confinement?
Bah écoutez, au confinement, au début du confinement, je crois que c'était le 22 mars, ils ont envoyé la Vierge et puis le diacre au-dessus de survoler le pays, donc survoler le pays pour bénir et protéger les habitants du Costa Rica.
Comment ça, la Vierge s'est envolée?
Oui. Mais normalement, traditionnellement, elle se baladait en voiture dans les villages après le pèlerinage. Et ça, c'est le 2 août. Donc, on n'est pas arrivé encore au 2 août. Et là, je pense que le pèlerinage va être un petit peu difficile. Ouais.
Donc, elle a survolé, rassurez-moi, elle n'a pas volé de ses propres ailes, elle a volé en avion au-dessus du pays.
Non, en avion. D'accord, en avion. Le miracle a déjà été fait au temps de la... De l'époque espagnole.
Merci beaucoup Jean-Christophe d'avoir nous avoir raconté votre Costa Rica en direct depuis là-bas. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée parce que la journée ne fait que commencer là-bas.
Un bon petit déjeuner.
Eh bien, écoutez, je vous envoie un grand bonjour à toute la France de San Gerardo de Rivas.
Merci beaucoup. Bon petit déj. Au revoir les amis. On reste ensemble dans un instant une face moins connue du Costa Rica, plus mystérieuse. L'étonnant mystère des sphères. Las Bolas, on les appelle là-bas. Il y a même une ville qui s'appelle Las Bolas, les boules. Nathalie est là, nous raconte tout dans un instant. Et si on partait sur Europe 1 dans un instant, l'étrange mystère. C'est vraiment un mystère, c'est presque totalement inexpliqué. Le mystère des boules, des sphères. Curieuse de grosses sphères de pierre qu'on a retrouvées dans la nature au Costa Rica. C'est Nathalie Hellal qui va nous raconter tout ça. Mais tout de suite, un petit Sergio Mendes, Más que nada. Sur Europe 1.
samba, charimando, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto du. Mas quem nada, um samba como este é tão legal, você nada.
Ça, j'adore, c'est la musique qui fait voyager, ça. Machquenada, le pianiste brésilien Sergio Mendes.
Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait toujours au Costa Rica, Nathalie Elal, c'est à vous.
Oui, on va attaquer le Costa Rica, mais un petit peu en mode Indiana Jones.
Alain. Vous avez le chapeau ?
Non, j'ai le fouet. J'ai juste le fouet pour vous.
Vous me faites peur. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?
Oui, parce que figurez-vous qu'on a trouvé là-bas quelque chose d'absolument improbable qu'on appelle les bolas de piedra, les sphères de la région du delta de Diquis au sud du pays. Alors, vous allez voir que leur découverte, elle est aussi improbable que les explications des scientifiques jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 1939 et en voulant planter des bananeraies, un explorateur cupide, ce qui est un petit peu un pléonasme en soi, qui défriche des milliers
d'hectares.
Qu'est-ce
que vous avez contre les explorateurs ?
Oh, bah, ils sont toujours là pour des bonnes raisons très, très, très pécuniaires en général. Donc cet explorateur est là pour défricher des milliers d'hectares de terre pour une compagnie américaine qui s'appelle la United Fruit Company, qui est une entreprise de production et d'acheminement de fruits donc américaine. Et puis, par hasard, complètement par hasard, on exhume dans la jungle 300 sphères en pierre granitique, ce qu'on appelle des mégalithes.
De quelle taille ?
De toutes les tailles, justement. C'est-à-dire que le diamètre peut aller de quelques dizaines de centimètres à plus de 2 mètres. Et les plus volumineuses pèsent plus de, écoutez-moi bien, 15 tonnes. Alors, ça a réussi miraculeusement à échapper totalement aux prédateurs de civilisations anciennes, précolombiennes. C'est-à-dire que ni les conquistadors espagnols, ni les missionnaires, ni les corsaires et les boucaniers qui trouvaient refuge dans le delta et venaient cacher leurs trésors n'ont découvert leur existence.
En même temps, c'est des boules de pierre.
En même temps, c'est des boules de pierre. Mais vous allez voir. Alors, bien sûr, au passage, les engins de la United Fruit Company vont déplacer les plus légères, en écrabouiller d'autres.
Ça ne les intéresse pas, quoi. Bah, ils tombent sur des boules énormes.
C'est littéralement une peau de banane pour la United Fruit Company qui veut planter justement des bananiers. Donc, il y a certains ouvriers quand même qui sont inspirés par des histoires fabuleuses d'or caché. Ils ont envie de dynamiter des sphères, des dizaines de sphères, parce qu'ils pensent découvrir de l'or à l'intérieur. Comme quoi, plus de 4 siècles après les conquistadors, rien n'a changé, hein, vraiment rien. Heureusement, ils n'ont pas tout saccagé parce que la fille du grand patron de l'entreprise américaine, Doris Stone, est une archéologue. Elle est absolument passionnée. Elle apprend cette découverte et elle supplie les ouvriers, elle supplie le conducteur de travaux qu'on ne les enlève pas, ces sphères.
Et alors, est-ce qu'on a trouvé une explication à l'origine de ces sphères énormes ? Et c'est des sphères parfaites. Hein.
C'est des sphères parfaitement lisses. Belles. Imaginez-vous de la roche granitique, donc c'est très dur, très compact, mais parfaitement lisse. On ne sait même pas comment c'est arrivé là, qui les a transportés, parce que certaines sont très lourdes, je vous ai dit 15 tonnes. Comment ça a été poli à l'époque, avec quels outils, on ne sait rien. Et quand l'archéologue arrive 6 mois plus tard, elle est atterrée par l'ampleur des dégâts. Des centaines de sphères ont été déplacées, mais elle observe quand même des sculptures d'une hauteur parfois supérieure à 2 mètres et qui pèsent également plusieurs tonnes, qui représentent des personnages ou des animaux, mais elle n'arrive pas à les dater. C'est impossible parce que tout ce qui entoure le site a été dévasté. Ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs de poursuivre ses recherches, d'entreprendre tranquillement 8 ans plus tard une expédition et de publier sur le sujet. Alors elle arrive tant bien que mal à a daté un petit peu la conception. Elle pense que ça a été fait entre 800 et 1350 années de notre ère. Mais qui les a conçus? Comment? Pourquoi? On ne sait pas. Elle n'a pas la clé du mystère.
Donc c'est toujours un mystère.
Oui. Et puis bien sûr, il y a des théories sur le sujet.
Par exemple?
Peut-être un signal extraterrestre. Alors des théories plus ou moins farfelues, bien évidemment. Probablement aussi, dit-on, la composition d'un calendrier astronomique super précis, un compas magnétique, ou bien un dispositif de navigation, peut-être aussi des symboles mythologiques de la Terre et du Soleil, peut-être aussi, c'est peut-être la théorie qui me fascine le plus, le jeu de boules d'un monde peuplé de géants.
Ou un anniversaire avec des ballons, mais en pierre.
Et c'est vrai que c'est très mystérieux cette histoire. Et il y a même une ville où il y a beaucoup de ces boules qui traînent, qui s'appelle Las Bolas. Les boules, et vous avez la police de Las Bolas, l'école de Las Bolas.
Et on joue à la pétanque avec les sphères.
Mais non, c'est beaucoup trop gros, elles sont énormes, c'est vraiment très très gros. Merci beaucoup Nathalie pour cette histoire.